Et coucou!
Et bonjour.
Ah là là!
Ouf.
On a cru que ça allait jamais arriver.
Jamais démarré. Ça fait bien, je dirais, 6-7 semaines là qu'on essaye de se connecter
Vous voyez
ensemble.
Koh-Lanta, à peu près le même temps d'enregistrement, de
Bon, c'était
pré-enregistrement.
facile, franchement.
À Koh-Lanta, à côté, c'était petit joueur. C'était
Ouais.
très petit. C'était sous-joueur. Je veux dire,
Oui.
c'est le. Je sais pas comment on appelle les ligues. De sport pour les enfants très jeunes.
Les enfants,
Je
la
sais pas.
garderie,
Non. Des ligues de sport, la garderie.
ligue de sport, ah les
Les
poussins, les poules,
pousses. Les poux. En trois mots, pyramide.
un oreiller.
On démarre par une digression. En même temps, ouais, en fait, en toute honnêteté, bon, déjà, vous ne connaissez pas cette voix, mais bien sûr, nous allons la présenter. Ça fait à peu près une petite heure qu'on essaye de se connecter pour enregistrer. Vous avez tous les back-office de cet épisode. Et j'ai la joie d'être avec quelqu'un dont j'ai déjà parlé dans le podcast, qui est très proche de moi et que j'aime beaucoup, mais qui est aussi auteurice, dois-je le dire. Vous avez la joie d'entendre à l'autre bout du fil Sarah Gouraud. Coucou.
Bonjour. Ah, oh, mais la joie est mienne, la sauce est mienne, l'honneur est mien, vraiment. Ah, je rencontre mes idoles, quoi.
Oh mon Dieu, deux idoles se rendent compte, que se
Oh mon
passe-t-il?
Dieu.
Pluie de joie, que
Ah,
se passe-t-il?
j'ai l'impression d'être Michel Drucker. Incroyable. Non, mais c'est toi qui es Superman. Non, c'est toi.
J'ai eu un
C'est
doute, je
toi.
pensais que tu allais dire j'ai l'impression d'être Michel Sardou, et là je pense que l'épisode n'aurait pas pris un super bon tournant, tu vois.
J'ai rarement l'impression d'être Michel Sardou, très honnêtement.
Je
Ce qui en dit
pense.
long sur mon bien-être,
Oui.
finalement.
Mais peut-être Michel ne se pose pas beaucoup les questions de son bien-être. Peut-être
Oh,
Michel
ça, ce
vit.
sera pour un autre épisode, mon ami.
Bon, comment ça va?
ça va, franchement, je suis bien. Je me retrouve de ce côté du micro après tant d'heures de bus à vous écouter,
Oh.
où vraiment je suis là. Moi aussi, j'ai des choses à dire là-dessus. Très bon point.
Je trouve ça génial qu'on ait parlé de toi en tant qu'autorice avant de t'entendre. Et
Ouais.
j'adore que tu sois. Ah, que maintenant on parle de toi en auditeurice.
Ah, mais vous savez, les
Tadadata.
auteuristes sont des gens comme tout le monde,
Quand
hein.
c'est les autrices de Tauris. Non, je voulais mélanger les deux mots, j'ai pas réussi. Écoute. Mais nous avons parlé un petit peu en amont, mais je te laisse le soin de te présenter
Oui.
parce que c'était une chose importante,
Oui,
finalement.
vous me connaissez sous le nom de Sarah Gouraud, c'est mon nom. J'utilise aussi le prénom Gabi en ce moment, donc feel free de m'appeler Gabi. Voilà, donc peut-être que Flavie, pendant cet épisode, va référer à moi autant en tant que Sarah ou que Gabi, l'un et l'autre. Je suis l'un et l'autre. C'est quoi la chanson déjà?
Double
Je...
jeu
Oui,
de.
oui!
Je
Ben c'est moi, je suis Christophe Willem finalement.
suis. Après être Michel Sardou, elle
Reveal!
est Christophe. Je disais, t'enlèves ton chapeau. Hop là! C'est
De
moi.
la tortue.
Ton chapeau de tortue. Oh, mais ça me fait très plaisir de t'écouter, de t'entendre et de te parler. Je suis toute rougissante et joie.
Oh, moi aussi, on a tellement de choses à se dire.
Oui, de fou, parce que
Tu crois,
quand
enfin,
des questions. Enfin, tu sais. Tu sais, un peu comme
j'espère.
Joe Dassin, qui a beaucoup de choses à dire dans l'été indien. Toujours placer cette référence à un moment
Oh
donné,
bah
sinon c'est pas drôle.
oui, je n'ai jamais autant. Putain, si
Je
je
n'ai
n'ai.
jamais été aussi heureux que ce matin-là.
Merci, mais j'ai honte parce que normalement je connais que ça. C'est
C'est la seule
l'émotion.
chanson. Je connais trois chanteurs, c'est Joe Dassin, Michel Sardou et Christophe Willem. Écoute,
Ça, autant dire que j'aime les bals de mariage, vraiment.
Oh, écoute. Que te dire? Je ne sais pas par quoi commencer. Mais si déjà, vous avez entendu parler donc de Sarah parce qu'elle a écrit Vaisseau mère, qui a été publié chez Gorge Bleue. Et tu sais la date exacte de publication? J'essaye de me rappeler.
C'était. Alors, attends.
Ça fait
Je
un
suis
petit
censée le
moment maintenant.
savoir, mais c'était courant septembre. Le lancement officiel, c'était le
Ah, c'était
19.
septembre 2023.
Ouais. Donc, ça fait quelques mois.
Donc c'est un petit bébé maintenant. Il a
Oui,
grandi.
c'est un bambin.
C'est un bump, hein.
Ouais, au début, c'était qu'un tube, et maintenant, il marche un peu et tout. Et j'ai perdu le contrôle.
Il commence à faire sa vie tout
De
seul.
ouf. Ouais. À
C'est
la maison d'assistante maternelle,
à la
autant dire vos
crèche.
librairies. Ouais,
Ah,
ouais.
tu m'étonnes. Et c'est alors, donc c'est ton premier roman en, c'est ton premier roman déjà de
Ouais,
base,
ouais, ouais, ouais.
mais ça n'est pas ton premier, ta première œuvre publiée, puisque tu as déjà publié deux pièces chez
Ouais,
Gorge Bleue
j'ai publié du
en.
théâtre en 2020, 2019 ou 2020. J'ai perdu le contrôle parce qu'on a reçu, oh là 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 là, les livres, on les a eus dans les mains juste avant, après, non, c'était pendant un couvre-feu, donc c'était en 2020 ou 21. J'ai perdu le fil, j'ai
Bah,
honte.
oui, parce qu'en fait, on oublie qu'il y a une période où on ne pouvait pas sortir après une certaine heure. Moi, ça me paraît complètement
Oui,
abstrait
moi je sens que mon
maintenant, tu vois.
cerveau refuse un petit peu cette information et tout est un petit peu flou sur cette période-là. C'était vraiment
Ouais.
travail et rentrer entre chez soi. Donc ouais, c'était particulier.
Et vous aviez fait de la promo sur les pièces ou pas du
Eh
tout
bien,
par
très peu,
rapport au.
justement, à
Ouais.
cause des couvre-feux. En fait, on avait plein. Il y avait quelques événements qui étaient prévus et on n'a pas pu les faire à cause des restrictions d'événements et de rassemblements, en fait.
Oui, c'est ça.
Donc, ça n'a pas pu être fait. Donc, effectivement, c'était pendant les couvre-feux. Et je disais on parce que j'ai coécrit les deux textes de théâtre qui sont sortis également à Gorge Bleue en 2021, avec Alix Gouraud et une autre avec Louise Desjours-Robotiska. Donc, on était trois sur le coup. C'était une publication collective.
Ouais, et c'était une question que j'avais un peu dans ma besace ou banette, un des deux, lequel va ressortir. Est-ce que, parce que comme Vaissomère, rentrons dans le vif du sujet, c'est ton premier roman, mais comment t'as vu la différence entre l'écriture à quatre mains et l'écriture solo? Et aussi, la question que j'avais, c'était entre le théâtre et l'écriture de roman. Comment t'as vécu ce changement-là
Bah du coup,
pour
c'était
toi?
double changement, oui, de passer déjà à écriture collective, écriture solo et écriture roman, écriture théâtre, écriture roman. Ben, j'avais plus l'habitude d'écrire toute seule avant d'écrire avec mes comparses de théâtre, parce qu'on était dans la même compagnie de théâtre, amateur, étudiante.
À Nantes, je
À
précise,
Nantes,
parce que nous
exactement.
sommes en duplex à
Ouais.
distance.
C'est ça. Je vous écris depuis Nantes. Et puis, alors, le théâtre à quatre mains, bah, du coup, c'était ça qui était nouveau de base. Mais c'est très drôle, en fait, d'écrire à plusieurs. Alors, en plus, dans le contexte où tu écris des comédies, bah, c'est vraiment la colo, quoi, pour moi, d'écrire à plusieurs. C'était bien sûr contraignant dans le sens où bah, tu peux pas juste mettre toutes tes idées et quelqu'un en face qui fait non, ou oui, mais c'est d'autant mieux parce que t'es pas livré à toi-même. T'as deux bases, une des réactions devant toi. Et du coup, c'était très stimulant de s'envoyer avec Alix. D'abord, on s'envoyait les textes par fichier interposé. C'était comme écrire des petits sketchs qui avaient fait rigoler l'autre. Et du coup, t'as envie d'en écrire un autre pour une autre scène, pour faire rire l'autre aussi. Donc, du coup, c'était très, très stimulant dans ce sens-là. Après, c'est un peu ce qui est plus dur, c'est vraiment tout ficeler ensemble. Une fois que tu as fait le gros du travail et que tu dois affiner les choses, c'est des choix où là tu as plus de bah, tu as plus de désaccords, mais ça s'est très bien passé. Mais bah, tu as plus de tu dois argumenter et tout, mais c'est très satisfaisant sur le coup en fait. Et en plus, bien sûr, le théâtre c'est particulier parce qu'après, c'est pas qu'un texte, c'est fait pour être mis en scène directement, donc il vit directement et tu penses à des gens quand tu écris le théâtre, et ça c'est très bien, c'est hyper intéressant. Donc c'est très particulier. Après, quand t'écris tout seul, bah t'es dans ta tête. Donc c'est vraiment pas du tout la même ambiance, parce que même si quand t'écris à deux, t'écris pas forcément les deux en même temps, même si ça peut arriver, ce qui était le cas pour Shakespeare avec Louise. Mais quand t'es tout seul, bah t'es un peu en roue libre dans le bon, pendant, comment pour le meilleur comme pour le pire en fait, parce que t'es devant toi, tu as un fichier Word ou autre. Tu mets de la musique. Moi, je mets de la musique de film. Ça me met en ambiance. Et bah, des fois, tu es dedans. Puis des fois, bah, tu es distrait. Donc, tu n'as pas ce truc quand tu es à plusieurs ou quand tu as un truc très concret ou genre demain, il faut que j'ai écrit une scène pour un tel, une telle.
Ouais.
C'est très différent de bah, là, je vais peut-être envoyer à mon éditrice parce que j'ai eu la chance d'avoir la même éditrice pour les deux ouvrages. Je me suis dit, bah oui, quand c'est prêt, je lui envoie. Donc ça peut être dans 3 mois, ça peut être dans 1 an. Bon, bah c'est moins satisfaisant sur le coup, même si j'avais des lecteurs au fil du temps pour le roman. J'embrasse Louise à ce sujet. Mais sinon, t'as pas de satisfaction immédiate comme pour l'écriture de théâtre à plusieurs et après justement la mise en scène. Comme c'est long le processus de publication pour un roman, c'est même si tu travailles à plusieurs, à la fin dessus quand tu fais de l'édition, avec en l'occurrence avec mon éditrice et son acolyte à l'époque, donc c'était Marie et Clémence, et c'était très intéressant de faire ça à plusieurs, mais pendant hyper longtemps t'es tout seul donc. Tu souffres un peu plus. Moi, j'ai vraiment. C'est dur d'écrire en vrai. Franchement, je ne le conseille pas. C'est une galère.
Et t'avais l'idée du roman de. T'avais une idée de roman depuis longtemps ou c'est quelque chose qui s'est un peu posé à toi après avoir écrit la pièce? Comment
Les
t'as
pièces
eu l'idée?
m'ont mis à l'aise en fait. Les pièces, elles m'ont mis à l'aise dans le sens où je pouvais mener une histoire du début à la fin. Parce que avant, j'avais écrit des nouvelles, mais c'était moins au long cours. Alors que là, les pièces, c'était quand même des projets un peu plus conséquents. Donc j'avais un peu ce truc genre, ah bah je l'ai déjà fait. Donc malgré moi, j'ai déjà fait une histoire, même si on a fait ça à deux dans les deux fois. Et le roman, j'avais une idée, j'avais une ambiance en tête. Je savais que je voulais écrire un roman, j'avais un peu une ambiance, mais un peu vague. Et je me suis replongée dans des vieux textes que j'avais écrits il y a longtemps, des nouvelles, des fragments, et j'ai trouvé un personnage que j'aimais bien. C'est le personnage de Judy qui ouvre le livre. Et même si c'est pas un personnage que j'affectionne particulièrement parce qu'elle me gave un peu sur des trucs. Je l'aimais quand même beaucoup et j'avais envie de. Je sentais que je pouvais faire quelque chose avec elle. Donc en fait, j'avais pas du tout planifié à quoi ça allait ressembler. Il y a des gens, je crois, qui utilisent les termes architecte, pardon, ou jardinier pour les auteurs. J'ai vu ça il y a pas longtemps en disant qu'architecte, bah, c'est ceux qui planifient de bout en bout et ensuite qui écrivent. Et les jardiniers, c'est un peu ceux qui se laissent aller et qui voient où leur
Qui
histoire
vont
ou leur
d'espace,
personnage mène.
qui vont d'espace en espace dans l'écriture et qui voient comment ça peut s'arranger tous ensemble, quoi, en
Ouais,
gros.
ouais, ouais. Et du coup, j'étais un peu en mode jardinier là au début. Et après, j'ai commencé à planifier un peu plus parce que bah, d'autres personnages apparaissaient. Je dis, alors, j'aime bien mon univers, mais je ne sais pas exactement où ça mène. Et du coup, c'était ce processus-là.
Et comment tu résumerais, j'avais posé la question à Vincent quand j'avais fait l'épisode avec lui sur l'ombre des rêves, comment tu résumerais Vaisseau Mère? Parce que je vous ai pas reprécisé de quoi parlait Vaisseau Mère, mais je me suis dit ça, c'est intéressant d'entendre Sarah en parler directement. Comment tu le résumerais, c'est pas le terme, mais tu vois, comment t'en parlerais?
Eh ben moi je dis que c'est un moi je dis que c'est un roman d'amour. C'est un roman sur l'amour en fait. C'est marrant parce que j'ai vu plein de gens le qualifier de plein de choses, mais ben, c'est pas forcément le truc qui est venu en premier. Je dis ah moi c'est marrant, pour moi c'est vraiment une histoire d'amour, d'amour avec un S. Donc il y a plein de formes de relations en fait dans ce roman. Donc c'est un peu un roman de sur les relations, sur la famille. C'est un roman de famille aussi. C'est un roman un peu de guingois, je
Toujours placer une petite expression qui va
pense.
bien, hein.
Sinon, c'est pas marrant.
Sinon, c'est pas marrant.
Non. Voilà, c'est un roman queer aussi. Mais c'est un roman d'amour queer. Et de. C'est ça. Je dirais ça.
C'est marrant parce que dans nos petites, vous entendez dans nos manières de parler, on se connaît depuis quand même un certain temps maintenant. Ça fait 15 ans qu'on se connaît.
Oui,
14, 15 ans qu'on se
je
connaît.
crois, ouais,
Voilà.
j'avais envie de dire qu'on s'est rencontrés à la fac et qu'on a commencé à se connaître en citant des Camoulox sur les marches devant les amphis de
Exactement.
lettres, et ça c'est le début d'une belle amitié.
L'amitié. On parle d'amour et d'amitié, c'est beau. Mais non,
Oui.
j'allais le dire, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, je l'ai pas présenté notre lien spécifique, mais je veux dire, j'ai l'impression de bosser en administration. Je vous ai pas présenté notre lien spécifique, écoutez. Mais non, non, et c'est ce que tu dis sur le fait que ce soit. Moi, j'ai vraiment senti que c'était un roman collectif et un roman de comment on crée communauté. Ou comment on crée. Fédération, c'est pas le terme. Fédérateur me parle plus que fédération, tu vois, mais c'est un roman qui parle de comment on crée sa propre maison, parce que c'est littéralement ça
Ouais,
aussi.
c'est ça, c'est un roman sur la famille choisie, sur le foyer choisi, c'est parce que ça m'intéresse beaucoup ces questions de comment est-ce qu'on fait communauté, parce que quand on est une personne queer, La question se pose, et le terme communauté, il est beaucoup utilisé, un peu à tort et à travers, parce qu'au final, on ne sait plus trop ce qu'on cherche parfois. Mais moi, j'ai imaginé un endroit en fait où j'aimerais être, un endroit ouais, assez peut-être un peu utopique, mais un endroit ouais, qui me ferait du bien en fait de rencontrer. Et
Je
même
vois.
si je connais un peu certains endroits qui pourraient ressembler, l'endroit en soi n'existe pas. Et il est, pour moi, il est assez idéal. Il s'y passe pas des choses forcément idéales, mais ouais, l'endroit, en tout cas, les bonnes volontés sont idéales dans
Ouais,
ce que je trouve.
effectivement, t'as un truc de d'utopie et en même temps très très concret parce que c'est ce que on en a déjà parlé. C'est quand tu connais un peu Nantes. Tu vois, enfin moi j'y ai vécu qu'un an, c'est une ville que je connais bien, mais j'y ai vécu qu'une seule année, j'y retourne assez régulièrement. Mais y a une atmosphère très concrète dans ce que tu racontes. Et moi je me suis projetée dans une maison en particulier, dans des maisons en particulier sur Nantes et certains quartiers, alors que je pense que c'est ce qu'on s'était dit, c'est pas du tout là où ça se passe ou là où tu vois, où tu l'imagines, mais tu crées suffisamment un univers pour qu'on puisse se projeter spécifiquement à certains endroits, quoi. Il y a cet ordre. Et quand tu parles de la queerness, comment tu as l'impression que la queerness et l'écriture, le fait d'être queer et comment tu vois le lien entre les deux? J'allais dire comment l'un infuse dans l'autre, mais c'est pas exactement ce que je veux dire, c'est plus comment tu vois le lien entre les deux pour toi. Comme c'est ce dont tu as choisi de parler dans l'écriture, comment tu l'appréhendes, le lien entre les deux?
Pour moi, j'en parle parce que je connais, en fait. J'en parle parce que c'est quelque chose de quotidien. J'en parlerais pas si c'était pas mon univers, en fait. C'est pas, puis, mon univers, oui, c'est très particulier de parler du queer en tant qu'univers, mais disons qu'en tant qu'imaginaire et en tant que. Comment on se projette en tant que personne, en fait, c'était juste évident parce que ça me concernait. Je pense que les récits queer, de toute façon, aujourd'hui, il y en a de plus en plus et c'est génial, mais ils n'ont pas forcément. Les personnages queer, pardon, n'ont pas forcément, surtout gender queer, personnages trans, n'ont pas forcément été écrits dans l'histoire par les personnes concernées. Et
C'est vrai.
du coup, là, c'était assez génial de. Moi, je ne suis pas concernée par tous les thèmes dans le livre, loin de là, mais par contre, d'avoir une bonne dose d'expérience et aussi le retour de mes adelfes queer sur la situation. D'ailleurs, j'ai écrit une partie d'un personnage avec une lectrice sensible, personne transféminine, qui a pu m'accompagner sur certaines choses, en fait, pour que j'ai beau être éduquée sur pas mal de choses, tu sais jamais tout. Et l'intérêt, c'est que tu as envie d'avoir une expérience réaliste. Parce que c'est des identités qui sont trop souvent, on parle trop souvent pour elles et mal en plus. Donc, ouais, l'idée c'était de faire un livre queer qui sait de quoi il parle, quoi, qui est incarné. Mais c'est
Carrément.
pas un, c'est un livre qui, du coup, qui est politique, mais il y a une intrigue et tout, hein.
Ouais, non, attends, ah non, mais c'est un roman. En fait, moi j'adore les romans choraux. J'aime pas dire ça parce que du coup, je vois les choraux, je vois pas la chorale.
La grande ouais.
La grande chorale. Non, tu vois, enfin, c'est un roman choral et c'est un roman à point de vue. Moi, je dirais même ça. Ce qui est le principe du roman choral, mais et qui raconte. C'est pas. Comment dire? C'est vraiment une histoire, c'est vraiment un roman, c'est pas pour ceux qui n'ont pas lu, celles qui n'ont pas lu. C'est une histoire suivie sur, je sais pas sur combien de temps ça se passe, mais
C'est
moi,
une saison, c'est en
saison.
gros de septembre à décembre.
Ok. Et un des trucs qui moi, m'a vachement touché, bon, on en a déjà parlé, c'est ce dont j'avais parlé quand j'avais un peu fait le retour sur ma lecture. C'est aussi un roman qui, je trouve, parle de la transmission entre générations queer. Ce qui est pour le coup quelque chose qui existe et qui est déjà, enfin, tu vois, dans plein d'œuvres, c'est le cas. Mais je trouve que sur des nouvelles générations et sur, comment dire, des nouveaux modes de représentation. Tu vois, enfin, il y a vraiment quelque chose dans notre génération, la génération après nous, sur comment on est représenté, comment des personnes queer sont représentées.
Ouais.
Et c'est un roman qui parle de cette transmission-là, en fait. Comment c'était dans les années 80, 90, jusqu'à aujourd'hui.
Ouais.
Et t'as fait beaucoup de recherches là-dessus,
J'en ai fait un peu, j'en ai fait, ouais, j'en ai fait. Et en fait, ce qui est très compliqué autour de la transmission, autour des disons, LGBT seniors, des vieux queer, bah, c'est que c'est en fait, il y a peu de.
C'est archives.
Complètement une. Bah, en fait, ouais, les archives, elles sont. Bah, c'est pareil, c'est politique. Comment est-ce qu'on garde des archives? Est-ce que les personnes concernées ont eu la parole ou ont eu des espaces? Il y a toujours des espaces, mais ça existe. C'est pas des endroits qui sont très fréquentés. C'est pas des endroits qui sont très sur les cartes.
Mmh.
Donc c'est un peu l'idée aussi. Moi, j'ai aimé imaginer des personnages plus vieux parce que du coup, dans le roman choral. Alors je sais qu'il y a des gens qui savent pas forcément ce que ça veut dire roman choral, mais ça veut juste dire plusieurs personnages qui parlent et qui ont leur point de vue dans le livre. Il y a pas qu'un seul narrateur. En gros, il y en a plusieurs.
C'est ça, ouais. Tout à fait.
Et ce que je m'en suis rendu compte dans certains échanges, que ce n'était pas forcément très clair. Et je disais ça parce que, oui, en fait, les aînés queer, ben, moi, je n'en connais pas trop. Je n'en connais pas. Il y en a, bien sûr, mais ça reste une génération qui a été assez sacrifiée. Les vieilles générations ont tendance à être dans le placard ou loin des yeux, loin du dommage. Il y a aussi l'épidémie de sida qui a tué beaucoup de seniors LGBT, c'est un vrai truc. Donc ouais, l'idée d'avoir des vieux LGBT, et en fait moi je rêverais d'un espace où il y a des vieux avec qui discuter, avec qui échanger, d'avoir cette espèce de ressource. Je sais qu'il y a une asso qui s'appelle Grey Pride, je crois.
Ah, c'est génial.
Ouais, c'est des vieux seniors LGBT qui...
T'avais vu...
Ouais.
Ouais. T'avais vu le film, c'est Invisible ou Les Invisibles,
je sais. Oui, le documentaire.
Ouais, sur des personnes LGBT de plus de, je crois que c'est plus de 60 ans, je crois.
Ouais, et à la campagne.
Et à la campagne en plus, ouais.
Et c'est moi, je viens de la campagne et ça m'a tellement ému ce documentaire. Oui, pardon, tu
disais. Non, carrément. Si vous avez l'occasion, c'est pour ça que je te posais la question, parce que si vous l'avez pas vu, il était visible sur Arte pendant un temps, mais je pense qu'il peut se trouver assez facilement. Et ouais, c'est vraiment, comme tu le disais, c'est sur le fait d'être queer dans des milieux non citadins, enfin vraiment des milieux non citadins, des lieux isolés. C'est hyper. C'est hyper fort. En fait, c'est marrant que tu... Enfin, j'ai trouvé ça assez émouvant que tu parles de ça dans Vestomère, parce que moi, dans ma famille, j'ai une de mes tantes, quelqu'un d'un côté de ma famille qui a vécu beaucoup en ville, donc à Paris, mais qui a aussi vécu sur la côte ouest et qui avait beaucoup d'amis LGBT. Elle n'était pas elle-même, mais elle avait beaucoup d'amis LGBT. Elle a perdu des amis avec l'épidémie de sida, etc. Et en fait, et c'est autant à Paris que dans des villes côtières, dans des villes qui ne sont pas des grandes, grandes villes ou à la campagne. Et en fait, tu te rends compte que, pareil, comme tu disais, il y a peu d'archives. Il y en a, il y a des assos, il y a des choses, mais c'est pas du tout... C'est pas du tout ce qui est mis en valeur, et surtout que c'est un héritage énorme qui est hyper important aujourd'hui. Enfin, je pense, et c'est ce que j'ai retrouvé dans Vaisseau-mère, ce truc de, en fait, vous vivez quelque chose vous maintenant, mais sachez le travail qui a été fait avant. Et c'est ça qui moi m'a vachement parlé.
Oui, et bah trop cool. Et puis c'est vrai que.
Super.
Merci. non, mais c'est important. Et ouais, non seulement il y a des gens qui ont bossé avant, et aussi rien que le fait qu'ils aient existé, il n'y a pas ce côté genre, lol, c'est une mode, le coup, toutes les homosexualités, toutes les variétés du genre, le spectre du genre qui est infiniment complexe et énorme. C'est pas de la nouveauté, ça n'a rien à voir, comme on peut entendre ce genre de bêtises. Mais en tout cas, ouais, c'est genre, les queers ont toujours existé. Et moi qui ai beaucoup vécu au contact de mes grands-parents, surtout quand j'étais plus jeune, je me dis, j'aurais adoré avoir des aînés queers, quoi.
Je me demandais, c'était justement, on parle de transmission et d'inspiration, tout ça. C'était quoi tes grandes inspirations? Est-ce que tu avais des inspirations littéraires pour écrire les pièces, mais aussi surtout Vaisseau-mère? Enfin, les deux, en fait. Je ne sais pas,
petit peu. Un peu de tout, moi j'ai toujours beaucoup lu,
C'est
donc
vrai, je peux
ça fait
l'attester.
plaisir. Ben, ouais, donc alors, je réfléchissais à ça pour les inspirations. Je pense que pour Vaisseau Mère, quand j'ai lu Conversation with Friends de Sally Rooney, ça m'a tourné un peu le cerveau. Et j'étais là, je sais pas ce qu'il a ce livre, mais c'est tellement efficace, j'aimerais trop pouvoir faire un truc efficace comme ça. Et c'est très particulier parce que il est un peu, bah, il a beaucoup trendé ce livre et tout, mais moi je le trouve vraiment bien. Et ce côté, bah, la vie aussi actuelle, c'est de se parler beaucoup. Je sais pas si, en fait, se parler en soi, se transmettre, etc. C'est déjà une sacrée, c'est une sacrée action. Et du coup, comme j'avais ce rapport au théâtre, les dialogues, avec les dialogues, il se passe tellement de trucs. Et l'idée, le concept même du livre qui s'appelle Conversation with Friends, je dis, mais oui, c'est tout un programme, c'est des amis qui parlent entre eux, c'est une mine, quoi. Et donc j'avais aussi parce que j'aimais bien l'atmosphère que ce roman apportait. Et puis sinon, j'avais pas d'influence directe. Pour les pièces de théâtre, c'est différent. Et c'était pas forcément des lectures parce que c'était plus de l'oral, notamment pour Pas de bougie bougie avec Alix, bah c'est mon petit frère, et on a grandi ensemble et on avait plein de refs en commune. Et bah, les dialogues de théâtre, bah c'est on a toujours aimé les dialogues, l'oralité et tout, donc ça allait être des trucs de, je sais pas moi, Kaamelott, à des sketchs de tout type d'humoristes qu'on a entendu depuis qu'on est enfant. Ouais, il y a tout un truc autour du bon mot, si j'ose dire.
La
Et
bonne lecture tombe
figure-toi
bien sente.
N'est-ce pas? Et figure-toi, pour la petite anecdote, que quand, juste avant de faire Pas de bougie bougie, alors ça, je vous dis ça, les
Une prise de
enfants, hein, c'était
parole
il y
de
a
cet
7 ans qu'on
endroit-là.
était, on était pas, c'était il y a quoi,
Oh là
6-7 ans,
là. Ouais.
figurez-vous que j'ai été médiatrice pour l'exposition temporaire Louis de Funès à Nantes. Et il se trouve que, eh ben, j'ai visionné plein de films de Louis de Funès. Alors, bon, hein, c'est une autre époque, c'est une autre France, mais ça, parce qu'il y a plein de trucs qui ont bien vieilli, c'est un peu gênant. Mais par contre, il y avait un truc dans les dialogues et la comédie de gestes et tout, on n'aime pas Louis de Funès, mais il y avait un truc assez foisonnant. Et du coup, j'ai vu plein de comédies dans un temps très resserré. Et je m'ennuyais un peu dans cet endroit. Et du coup, en fait, je me suis mise à griffonner des dialogues parce que, mine de rien, quand tu bouffes de la comédie, enfin, quelque style que tu veuilles, bah, en fait, il y a des trucs qui arrivent. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir chopé des mécaniques de comédie, des ressorts comiques, des choses comme ça. Donc, ouais, c'était surtout, je pense, filmique, cinématographique au niveau des séries pour Pas de bougie bougie. Et pour Shakespeare, bah, c'était autre chose parce que du coup, bah, on avait des pièces classiques en tête, parce qu'évidemment, Shakespeare, c'est référence à Shakespeare.
Pour
Et
faire juste le petit
ouais.
résumé rapide des deux pièces, parce que
Oh
c'est, je les ai lues, c'est que Pas de bougie bougie, c'est l'histoire d'une femme qui décide de mettre, une femme qui est assez âgée, elle doit avoir 60, elle a combien, 70, 80
oui,
ans,
merci. 83 ans.
83 ans, qui décide de mettre fin à ses jours. Et donc il y a tous les personnages autour d'elle, de souvenirs, hein, parce que ça fait longtemps que je l'ai vue, mais qui vont essayer d'influer sur sa décision. C'est à peu près ça.
C'est ça.
Ok.
Et on en a fait une comédie.
Voilà, et qui est extrêmement drôle. Et je me rappelle que j'étais là dans les premières lectures que tu avais
Oui,
faites au
oui,
collège.
oui, oui. Avec toute la troupe, ouais.
C'est
C'était là.
ça, je me rappelle la première lecture que vous aviez faite. Et Shakespeare, c'est l'histoire de la relation entre une candidate à la présidence de la République
Ouais.
et sa compagne. Je ne sais plus exactement ce qu'elle fait, malheureusement.
Ouais, c'est
Un
sa
peu.
femme et elle fait partie d'un parti écolo radical.
Voilà, et c'est la trajectoire de leur relation pendant des élections présidentielles, en
Ouais,
gros.
pendant la campagne, en gros, de Inès, donc la candidate présidentielle, et l'autre, sa compagne, qui est. Alors, non, c'est pas un parti que je dis, mais elle fait partie d'une organisation militante pour le climat, et du coup, c'est pas, du coup, c'est un peu plus radical que Greenpeace.
Ouais.
Voilà.
Là, on vous commence à nous entendre et je sais qu'on a la même passion pour des expressions, pour les choses, les petites tournures de phrases sympas. Et aussi, il y a un truc de geste, enfin, que ce soit dans les trois, tu as un rapport à la à la performance, entre guillemets, au geste, comme il peut être comique et tout ça.
Ouais.
Et notamment, si vous lisez, je fais une parenthèse, si vous lisez Vaisseau Mère, il y a une scène de playback. Alors, parce qu'aussi, c'est ça que je voulais dire, c'est que Vaisseau Mère, c'est aussi un livre sur le drag.
Oui.
Alors, quand même, principalement, un des sujets principaux.
Notamment, ouais.
Notamment, ouais. Oui. Et qu'il y a une scène de playback sur une chanson très connue, populaire, et que tu as aussi un truc très théâtral. Tu le vois tout de suite, en fait, tu le vois performer. Et je pense que tu l'as vachement mis en scène dans ta tête avant de l'écrire, j'imagine.
Ouais, bah tu sais, comme en fait j'ai écrit une partie pendant le confinement et avant on faisait beaucoup beaucoup de théâtre, ça faisait plusieurs années que j'étais très investie dans notre troupe de théâtre et on avait fait un peu de drag et de performance, ouais, de playback, lip sync, et du coup ben en fait j'ai pu mettre par l'écrit ce que j'avais envie de voir et ce qui n'était pas possible de faire. Donc c'était la frustration est venue là-dedans, et aussi il y a des toi qui as fait du théâtre, tu dois t'en rendre compte, mais vous voyez les trucs où vous imaginez faire des trucs, ouais, et puis là je serai en train de chanter, et puis tout le monde sera là, waouh, c'est génial! Bah, c'est plus facile de l'imaginer que de le faire dans la réalité. Mais en tout cas, c'était très kiffant de juste imaginer des performances, parce que tu peux jamais savoir ce qu'elles vont faire sur le public quand tu les fais. Mais par contre, quand tu écris un roman, tu as moyen de dire, oh, c'était tellement bien que ça a fait ça sur le public. Et ça, c'est extrêmement
satisfaisant. Ah, tu m'étonnes. C'est-à-dire, j'ai le pouvoir de voir ce que ça ferait si dans la mesure de ce que je voudrais que ça fasse.
Exactement. De là, waouh.
Ah, c'est super.
Oh, la foule est en délire. Et c'était tellement gracieux.
Et tu as écrit pendant le confinement, globalement.
Au début, ouais. Okay. Pas globalement, mais le début, l'impulsion s'est faite pendant le confinement. Alors ouais, j'ai fait partie des gens qui ont réussi à faire ce genre de truc. Je vivais dans un très petit studio, j'étais confinée dans ce tout petit studio et j'avais besoin de faire quelque chose de mes mains parce que c'était un peu compliqué, comme vous l'avez tous vécu. Et du coup, ben ouais, je me suis mise à écrire un peu sur mon canapé de temps en temps et ça m'a fait du bien de me plonger dans une histoire et d'être un peu ailleurs.
Il y avait tout un moment où ils sortaient les carnets de confinement des grands auteurs et tout ça, machin. Il y a eu tous les récits de confinement. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça.
C'était... J'avais tellement marre d'entendre parler du confinement que j'étais là, non, mais je m'en fous clairement de ce que vous avez fait.
Alors en fait, d'accord, mais je suis sûre qu'on peut faire autre chose. Enfin, c'est dingue parce que moi je pense que ça me paraît complètement hors cadre. Enfin, même maintenant, j'essaye de me dire, oh ben ça a vraiment existé. Je réalise pas, je pense qu'on n'a pas encore la réalisation de ce qui s'est passé, on l'aura que dans quelques dizaines d'années,
ouais.
Je pense.
Mais ouais, je pense parce que,
je pense que
les gens, tu sais, j'entendais dans les médias, ça se moquait gentiment, tu sais, genre, ah ouais, on sauve le monde en restant sur notre canapé, ah ah ah. T'es là, ouais, puis on est très isolés socialement, et puis ça va pas. Enfin, c'était vraiment très bizarre, et avec ce truc de genre, bon, on n'a pas le droit de se plaindre, si on n'est pas malade, ça va.
Puis si on n'est pas soignant ou soignante.
Ouais,
ou,
ouais, exactement. Exactement.
On a tous.
On est restés confinés, enfin, ouais. On en a chié, enfin, j'ai vu que tous les gens avaient galéré sur leurs milieux sociaux, que tout le monde avait. On a perdu vachement de gens, en fait, au niveau social, si on a eu la chance d'avoir été épargné par la maladie. Enfin,
ouais.
On a vraiment, en tout cas psychologiquement, on a galéré, quoi. C'était dur. Donc, et je sais, parce que je parle pas que pour moi, je vois que ça a été compliqué, même les psys le disent en mode, oh là là, il y a des conséquences terribles dans la socialisation des gens.
C'est déjà ça, sur quand il suffisait que tu étais soit au début de cursus universitaire, que tu sois au lycée, que tu sois à l'école, que tu sois.
Ouais.
Les soignants, n'en parlons pas parce que c'est encore autre chose, mais c'est vraiment. Enfin, n'en parlons pas, parlons-en, mais tu vois, il y a un truc de. Comment dire ? Je pense qu'on. Encore une fois, je pense qu'on ne réalise pas et je pense qu'on n'a pas. On n'a pas les mots, on n'a pas les.
Oui, bah oui, clairement. Et les récits de vie, là, c'est. Je crois qu'on a besoin de recul, en fait. Surtout que les récits de vie, j'ai l'impression qu'on a entendu surtout des... Enfin, moi, de mon côté, en tout cas, j'ai entendu pas mal de récits plutôt privilégiés
sur
le mode de confinement. Et du coup, ben...
Si t'avais le temps et l'espace de réfléchir à ce que tu vivais pour l'écrire, c'est que t'avais des choses que t'avais pas à gérer au quotidien, quoi. Donc,
Oui, puis je vois que, parce que je pense, merci les livres d'avoir existé pendant le confinement, quoi, parce que moi, ça m'a, moi, j'ai pu réussir à lire. Je sais que tout le monde n'a pas réussi à lire, donc ça,
Ouais.
c'est double peine. Mais ouais, moi, j'ai pu lire pendant le confinement. Ah, par contre, j'ai lu, j'ai lu Stephen King, The Shining, je l'ai lu pendant le confinement.
Évidemment.
C'était pas une bonne idée. Mais tu sais, j'ai un peu un truc genre, je peux pas vraiment avoir peur quand je lis. Tu vois, genre,
Ouais.
j'ai rarement lu des trucs horrifiques. Gore, c'est une chose, mais horrifique, c'en est une autre. Et du coup, j'étais, bon, ça va. Maman, tu
Oh
fais ça bien du tout.
bah tu m'étonnes. Oui, puis tu lis ça, puis tu fais là le soir. Moi, je l'ai décalé dans mon rythme. Je regardais beaucoup de choses, mais je lisais peu. J'ai
Ouais.
souvenir d'avoir beaucoup, beaucoup regardé de séries et tout, mais parce que j'avais la chance de, voilà, d'être un peu épargnée par tout ça. Mais moi, j'étais aussi dans un appartement en ville, assez petit. Oh putain, j'imagine Shining. T'es là, t'es dans un contexte hyper apaisant, déjà de base.
Ben surtout, en fait, je connaissais l'histoire. Je
Tu l'avais
connaissais
pas
l'histoire.
vu? Tu l'avais pas vu?
Je l'avais vu. Donc, je
Ah,
l'avais
ok.
pas lu, mais je l'avais vu. Donc, je savais comment ça allait finir. Donc, je pouvais espérer quelque chose. Mais je dis, bon, en attendant, on va en chier. Mais du coup, le livre est beaucoup. Parce que le film, moi, je l'ai trouvé décevant. Il y a tout un. Il y a tout un univers autour de Shining. Enfin, c'est un classique du cinéma et tout, soit. Mais par contre, moi, je l'avais vu au cinéma pendant une rétrospective et j'étais, ah, ok, je me prépare, ça va être horrible et tout. Et en fait, non. Donc, je m'étais préparé un truc vraiment horrible et j'ai pas eu trop peur au cinéma. Du coup, je dis, bon, bah, je vais lire le livre. Alors, par contre, j'ai tellement flippé en lisant le livre. C'était horrible. Parce que du coup, en plus, c'est dans la tête du père, là, de l'écrivain, qui va. Ça va pas très bien. Hein.
Il est border un peu quand
Ah, il
même
est
de
border.
l'écrire.
Il est border. Ça va pas du tout. Et puis surtout que là, on voit à quel point il est complètement affecté psychologiquement. Genre, j'ai pas envie d'être dans la tête de ce monsieur, pourtant j'y suis. Et vraiment, il voit des fantômes et tout. Et bien sûr, on le voit un peu dans le film. Et là, c'est encore plus criant et c'est encore plus flippant. Et ouais, donc bonne ambiance. Donc en fait, j'ai lu très très tard une nuit pour tout finir. Je tombais de sommeil. J'étais ah non, il faut que je le termine. Il faut qu'on sorte de cet endroit parce que ça va pas du tout.
Tu m'étais. Non, parce que dans le film, en fait, t'es extérieur à son regard à lui, tu le suis tout le temps,
Oui, tu vois qu'il
mais
a des
t'as pas.
hallucinations, elles sont représentées, mais t'as pas tout
Ouais.
le grondement, t'as
Oh.
pas toute l'effervescence assez hallucinée qui est dans sa tête. Et ouais,
Tu me
c'est
donnes tellement
vraiment
envie
horrible.
d'en lire. Mais c'est Misery, moi je l'ai vu, mais je l'ai pas lu, je veux le lire. J'ai lu Carrie, je voulais lire
Ouais.
La ligne verte,
Ah
je sais
oui,
pas.
la ligne verte, oui. Mais j'ai vu le film, j'ai pas vu, je l'ai
Okay.
pas lu.
Et je voulais lire, j'ai discuté, donc je bosse dans le secteur du spectacle vivant, comme vous l'avez entendu dans le dernier épisode, et je parlais avec la personne avec qui je travaille, qui m'a parlé de deux livres de Stephen King qui ont l'air géniaux, et je pense que c'est Dans la brume ou quelque chose avec la brume, et il y en a un deuxième, et en fait, ce que je trouve génial, c'est que il a l'air de créer des décors, quoi. Stephen King, t'as l'impression qu'il crée des mises en scène parfaites pour ces
Oui,
histoires. Et
bah ouais, il me semble.
dans la brume, c'est aussi un truc collectif qui se passe après une tempête. Alors je mélange peut-être les deux livres, mais j'ai très très envie de les lire. Je vous retrouverai les noms, je les mettrai en barre d'infos de l'épisode. Mais tu t'en as lu d'autres, toi, ou pas?
Ouais, j'ai lu la suite de The Shining, du coup, qui est
Ouais.
Doctor Sleep. C'est l'histoire du fils de cet homme. Pas bien, suspensionné. Danny, qui est donc le petit garçon dans The Shining qui entend, qui a le don en fait de clairvoyance et qui voit les gens qui sont morts. Donc c'est son histoire à lui. Bah, en fait, quand il est adulte et il travaille dans un hospice, et en fait, il accompagne les gens qui vont mourir.
OK.
Il sait quand les gens vont mourir et il les accompagne. Et du coup, il commence à capter les fréquences d'un truc paranormal qui se passe. Et il y a une espèce de catastrophe imminente et il ne sait pas d'où ça vient. Et tu as en parallèle cette espèce de phénomène incarné par des gens qui arrivent d'un côté. J'ai pas envie de trop dévoiler. Et là,
Vache.
je l'ai lu un petit moment, mais ça fait peur aussi. Ça m'a pas fait aussi peur que The Shining, mais c'est pareil, oui, comme tu disais, il est très fort pour créer des atmosphères. Et j'en ai lu un autre aussi. La petite fille qui aimait Tom Gordon, ça parle une petite fille qui se perd en forêt. Ouais. Et en fait, c'est un peu horrifique parce qu'elle a peur, mais en fait, il se passe rien de surnaturel. Et c'est plutôt la peur d'un enfant qui est dans un parc national, mais qui est complètement perdu, qui a perdu sa famille et du coup qui essaye de se retrouver. Et du coup, ben, elle a plus de nourriture au bout d'un moment et elle essaye de... elle dort dans la forêt et tout. Enfin, dans la forêt, c'est vraiment... Il y a les montagnes et les rivières et tout. Et elle est perdue. Et du coup, elle se raccroche à la figure de ce joueur de baseball qui est Tom Gordon.
C'est génial.
Et il y a un truc à la fin, je vous le dis pas, mais ce que c'est, mais il y a un truc incroyable sur ce sur son rapport au baseball qui lui sauve la vie.
Il est vraiment genre il est trop fort pour créer des histoires complètement différentes. Enfin, je sais pas, ça me donne trop envie parce que il est capable de faire des trucs hyper horrifiques, flippants, surnaturels et tout, et l'histoire de petite fille qui a peur dans la forêt et qui pense à du baseball.
Et elle a écrit des mémoires d'ailleurs sur les, enfin, il a écrit un livre sur l'écriture. J'en ai lu une partie et c'était intéressant parce qu'il parlait notamment de son enfance. Et tu te dis, Stephen King, quand même, quand tu lis ce qu'il écrit, tu fais, ça va toi ?
Ouais, j'avoue. C'est vrai.
Genre, quand même, c'est hanté. Enfin, ce mec est hanté, tu vois. Et ouais, de voir un peu son enfance, tu fais, ah, mais ça a été compliqué. Espèce d'Amérique complètement hors cadre. Cette Amérique un peu... Amérique un peu redneck, un peu mais en même temps qui essaye de faire comme elle peut, mais qui du coup est complètement hantée et un peu aveuglée par tous ses idéaux, qui fait que ça marche plus trop. Elle est bien incarnée par Stephen King, je trouve.
Ah, mais tu donnes trop envie, mais enfin, c'est vrai qu'il n'y a pas suffisamment le livre à lire, que non. J'en ai pas emprunté 3 à la médiathèque cet après-midi.
T'as jamais rien à lire, toi.
Moi, c'est terrible, hein. Mais après, j'ai des phases de disette. Là, je ne lis qu'un livre.
Tu lis quoi ?
Je suis sur la chambre de Giovanni de
Baldwin. Oui.
Et j'ai avancé, je suis à quasi la moitié là. Et j'avoue que je suis très charmée par son écriture. Mmh. Et ça faisait longtemps que je voulais le lire. Je le lis en anglais, donc ça demande, comme je disais, beaucoup de concentration. Mmh. C'est une écriture très fine qui est beaucoup sur la finesse, mais en tout cas le fait que les émotions soient très très précises. C'est un c'est des mots extrêmement précis, extrêmement adaptés, réadaptés. Je trouve qu'il y a des adjectifs adaptés à des moments très particuliers, et donc ça demande une certaine aisance, pas du tout, espace mental. En tout cas, même en anglais, je trouve que ça demande quand même une certaine gymnastique, parce que c'est pas des mots basiques, c'est vraiment un mot très précis. Et j'avais rien lu de lui, et je t'avoue que j'ai envie de dire, tu vois, il y a des livres comme ça, ok, tu galères un peu à les lire, mais t'es tellement dans l'atmosphère quand tu les que c'est très prenant, et c'est un peu ce que j'avais eu ça avec le Palais de glace de Tarjei Vezas, et là ça me fait un peu la même chose, de dire je galère un peu, mais quand je suis dedans, je trouve vraiment j'y trouve vraiment quelque chose, et je sais pas comment ça va finir. Je sais que ça finit mal, et je suis là genre c'est dur. Histoire de charme et de une histoire queer aussi, clairement, mais sur comment s'autoriser. Je sais pas si tu l'as lu, toi, d'ailleurs.
Ouais, je l'ai lu il y a quelques temps. Ouais.
Et alors ?
Ben, j'en ai un bon souvenir. En fait, j'ai souvenir aussi que c'était pas une lecture évidente, parce que je pense que le langage est un peu daté aussi.
Ouais,
mais il y a cette atmosphère parisienne, c'est à Paris, hein ?
C'est à Paris, ouais.
Ouais, il y a cette atmosphère parisienne un peu belle époque. C'est plus tard que ça, mais j'ai gardé un peu, j'ai l'impression que c'est les années 20. Et du coup, il y a ce côté un peu les Américains à Paris.
Ouais.
Qui a son charme, mais en même temps, c'est un peu du côté, c'est pas du côté macho-man de la vie, du coup. C'est particulier, et tu parlais des émotions précises, et j'ai un souvenir d'émotions très réprimées aussi.
Ouais.
Quelque chose qui essaye d'être intelligible, mais qui galère beaucoup. Mmh. Et un désespoir qui se dit pas trop. Enfin, j'ai vraiment ce souvenir un peu nébuleux.
C'est une espèce de, je dirais, pour l'instant, après je suis qu'à la moitié, mais d'émotions qui essayent effectivement de s'expliquer, mais qui veut pas vraiment se vivre, et du coup qui est complètement... c'est comme si c'était une pulsion de vie, mais qui s'incarnait pas. Et du coup, c'est très intellectuel, mais c'est pas du tout difficile. C'est juste, t'as la sensation qu'il se passe beaucoup de choses dans la tête de ce personnage, qu'il a envie qu'il se passe beaucoup de choses dans le concret, et que tu sais qu'au fur et à mesure, tu sens qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place, mais que c'est aussi, c'est ce que j'allais dire, c'est aussi un livre sur le désir queer et le désir. la difficulté du désir queer, parce que c'est, comme tu sais, ça se passe dans les années 50, je crois, ou 40-50. Et que dans des milieux gays, pas forcément très explicites, enfin, c'est des lieux reconnus comme, comme gays, mais c'est aussi les non-dits, ce qu'on voit, ce que la société voit de moi si je suis comme ça, etc. Donc c'est assez mental comme, comme lecture, mais je trouve...
Pardon, excuse-moi.
Ah, non, non, vas-y, vas-y, t'inquiète.
Non, je me dis, c'est pas les, le livre... C'est pas un livre d'une romance gay.
Mais c'est pas.
Heureuse, en fait. C'est pas. Il n'y a pas une.
Voilà.
Oui. C'est, elle est un peu impossible cette romance. Enfin, il y a beaucoup de beauté dedans, mais c'est vraiment l'esthétique queer, effectivement, du secret, de des espèces d'histoires hétéro qui se passent à côté, mais qui sonnent creux. Et il y a un peu ce le narrateur est dans sa tête parce qu'il, pour moi, il a pas trop la possibilité d'être dans son corps.
Ouais.
Et c'est avec le recul, je pense que sur le j'étais un peu dans le livre, j'étais d'accord, je découvre et tout. Ça me rappelait beaucoup Le Soleil se lève aussi de Hemingway, parce qu'on l'a... j'ai fait des cours de littérature et on l'avait lu quelques temps avant. Et il me saoule. Et pour moi, La Chambre de Giovanni, c'est la version réussie de Soleil se lève aussi de Hemingway. Oh, ça clash, hein, ça clash Hemingway ici.
Elle y va pas avec le dos de la... comme je dirais, parce que je mélange les expressions, elle y va pas avec le dos de la main morte, c'est moi qui
Ça non. tu m'enlèves une fière chandelle du pied. Bon.
Exactement, tout à fait. Moi, il y a une page que je me suis dit, j'ai fait, on dirait la fin du film... Voilà, j'ai oublié. J'ai un problème, j'ai des trous de mémoire terribles du film adapté de André Aziman. Oh mon dieu, Laura va me détester.
Call Me By Your Name.
Voilà, merci, putain. Oh, la douche froide émotionnelle que je me suis prise. Bah, ça m'a fait penser un peu. Il y a une page qui me fait vraiment penser au film. Mais que du coup, pour l'instant, je ne vois pas, je ne suis pas dans la phase explicite, enfin en tout cas vécue de cette histoire. Mais j'avoue que je suis très contente de le lire parce que j'ai l'impression de... Enfin, de toute façon, c'est la lecture, c'est ça qui est incroyable avec la littérature, c'est que ça te fait découvrir d'autres espaces mentaux et d'autres modes de pensée, d'autres manières d'élaborer des histoires et que je découvre vraiment un truc assez, assez fort et assez beau avec ce livre-là. Pour l'instant. Je suis que là-dessus. J'ai emprunté des BD cet après-midi à la médiathèque.
Oh, trop chouette.
La vie est faite pour lire des BD. J'ai emprunté les Pizli de Jérémy Moreau, je crois, qui est l'histoire d'un mec qui est chauffeur Uber, qui doit s'occuper de sa... Je ne sais plus si c'est son frère et sa sœur. Qui sont plus jeunes que lui et en fait il enchaîne les courses Uber à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour réussir à s'en sortir financièrement et il est épuisé et tout ça et il va rencontrer il va faire une course avec une dame qui est d'origine canadienne et ils vont avoir un accident de voiture et en fait ça va du coup il peut plus utiliser la voiture comme moyen de travail. Donc, la dame lui propose de partir au Canada avec toute sa famille et lui pour découvrir le Canada et c'est une histoire aussi sur les Amérindiens sur les indigènes etc sur la vie, je pense que c'est sur des questions de la vie dans les réserves indiennes, amérindiennes. Et le livre est sublime et apparemment c'est super. J'ai vu quelques critiques qui disaient que c'était pas hyper raccord avec la réalité des peuples amérindiens ou en tout cas des peuples. Je sais pas quel est le terme précis pour le Canada. Est-ce que c'est amérindien, indigène, natif? Je sais
Alors,
pas.
Moi, je crois que c'est natif amérique. Attends, parce que c'est il y a autochtone. Il y a pas mal autochtones, il me semble. C'est marrant parce que j'ai emprunté un livre qui s'appelle Cartographie de l'amour décolonial. Et en fait, je vois le résumé derrière et l'autrice est. Ça parle de. Il y a le nom de sa communauté qui. Je veux bien dire. Michisagignishkabeg. Donc, je dis sans doute très mal. Et qui parle de la résurgence autochtone. Donc, il y a moyen.
Donc, je sais pas. Enfin, en tout cas, effectivement, ça parle d'un peuple autochtone du Canada. Et apparemment, ils disaient que c'était pas hyper raccord avec la réalité de la vie de ces autochtones-là. Donc, qu'il y avait des petites réserves. Que le livre était très beau, que l'histoire était très belle, mais que c'était pas hyper raccord. C'est un auteur français qui a écrit le livre. Donc, je ne sais pas si ça a une incidence là-dessus, mais voilà, c'était les seules réserves que j'ai lues, mais j'avais très envie de lire, on me l'a beaucoup conseillé. J'ai emprunté The Sad Ghost Story, dont j'ai parlé en post sur Atlover Bouquin, notre Instagram, qui est un livre sur la santé mentale avec des gens habillés en fantômes. Et
Oh.
c'est très mignon. J'ai oublié le nom de l'autrice, mais c'est assez mignon. Elle a fait beaucoup de choses sur Instagram. Et j'ai emprunté à une BD japonaise, et malheureusement, je ne l'ai pas à côté de moi, j'aurais dû checker. Je crois que ça s'appelle Les Évaporés ou L'Évaporation. C'est sûr, en japonais, quand quelqu'un a disparu, on ne le cherche pas, il y a un truc de cet ordre-là. Ça commence comme ça, en tout cas, l'histoire.
Ouais.
Mais je ne l'ai pas lu. Donc, c'était une BD japonaise. Mais j'ai trop hâte. Enfin, moi, de toute façon, les BD, c'est un peu mes bonbons entre les livres. Alors que c'est des livres,
Oui,
hein, tu vois. Mais je
oui.
vois un peu ça comme des
C'est pas
petites
le
choses
même
à
effort.
explorer. Non, carrément. 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 T'en lis beaucoup, toi, de BD?
De temps en temps, j'en lis pas énormément. Mais j'aime bien parce que je me réapproprie la BD. J'en ai lu énormément quand j'étais petite. J'allais beaucoup à la bibliothèque avec mes parents. Mais par contre, et en grandissant, il y avait ce côté un peu la BD, haha, c'est pour les enfants.
On fait une
Et
parenthèse,
oui.
je me permets juste, je fais une parenthèse, je pense que tu seras d'accord avec moi, qu'on fait un gros big up à toutes les médiathèques de province et les
Mais.
médiathèques de campagne, parce que vraiment, genre, ça sauve des gens.
Ah, je suis complètement d'accord. Moi, la médiathèque m'a radicalisée.
À tous les niveaux, enfin, je pense qu'il y a des choses, j'ai des choses que j'ai découvertes dans les médiathèques qui sont des trucs qui m'accompagneront toute ma vie, genre
Oui,
en
clairement.
lecture, en musique et tout ça. Bref,
Ouais.
c'était la fin de la parenthèse, mais ça me semble, enfin vraiment, tous les gens qui travaillent en médiathèque, région, en campagne, etc., vous êtes des sauveurs et des grands bienfaiteurs et bienfaitrices. Voilà.
Tellement, vous faites nos vies, hein. Vraiment, vous. Vraiment,
Les
en
jeunes
toute
personnes,
simplicité.
en toute simple, les jeunes personnes que nous sommes,
Oui.
sommes ravis de ce qui
Clairement.
s'est passé en médiathèque.
Clairement.
Bref, tu
Parce que
dis.
c'était pas évident tout le temps.
C'est pas tout le temps, voilà. Et donc, tu voulais dire, pardon, excuse-moi.
Je sais plus ce que je disais.
Que tu disais beaucoup de BD, que tu
Oui, la
étais en
BD, bah, du coup,
médiathèque.
oui, je redécouvre à chaque fois que la BD, c'est vraiment un art En fait, c'est comme un roman. En fait, il y a des romans jeunesse, il y a des romans adultes, et tout entre les deux. Et ouais, la BD, j'aime bien ça. C'est pareil, je trouve ça rafraîchissant, parce qu'on aime bien les images.
Parce que c'est
C'est cool.
sympa.
C'est sympa, mais c'est cool qu'il y ait ce rapport double œuvre d'art, en fait, avec le texte et l'image, parce que les deux se complètent. Et du coup, tu peux pas aimer une BD parce que t'aimes pas le dessin, par exemple, alors que t'aimes le texte. Enfin, je trouve ça hyper intéressant de faire ce pari, double pari, de allez, on va combiner deux esthétiques ensemble. C'est quand c'est deux personnes bien sûr différentes qui le font, mais
Carrément.
c'est assez fou. Et du coup, je voulais parler absolument, mais je crois que tu en as déjà parlé, mais de cette BD qui s'appelle Moi, ce que j'aime, c'est les monstres
Ouais, je l'ai pas fini, mais
de Émilie Paris.
il faut
Ah oui.
absolument que je lise. Tu l'as lu, toi, du coup?
Ben oui, je l'ai lu par petits bouts chez Remedios, que j'embrasse, qui est vraiment une BD incroyable. Enfin, c'est tellement. Je suis ébouriffée de cette BD. Et toi, tu l'as pas fini parce que tu veux. Comment, pourquoi?
En fait, parce que je l'avais commencé, alors pour vous donner tous les détails, je bossais en accueil dans un théâtre sur Paris et il y avait une petite librairie dans le théâtre et en fait c'était le moment où elle est sortie et j'avais commencé à la lire là-bas et je l'ai commencé mais je l'ai jamais terminé parce que je pense que j'étais pas prête à l'époque aussi, mais que je me suis dit qu'en plus j'ai failli l'acheter mais finalement je l'ai pas acheté et je l'ai retrouvé notamment à la médiathèque à côté de chez moi, là, donc je pense qu'à un moment donné, je l'emprunterai. Mais que je pense que je le lirai bientôt, parce que je pense que je suis beaucoup plus mature à ce niveau-là qu'il y a quelques années. Voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas lu. Mais je sais qu'elle est extraordinaire, mais j'ai très très envie de la lire. Et donc tu l'as lu et tu as aimé.
Ouais,
Et
je l'ai. Elle m'a. Elle, c'est pareil, c'est une lecture qui hante un peu comme. Pas comme Stephen King pourrait le faire, mais c'est quand même encore un portrait des États-Unis qui est. qui est fort, quoi. Enfin, elle est très difficile à décrire parce que j'en avais beaucoup entendu parler. Et de l'avoir eu entre les mains, déjà, les dessins, moi, m'ont fascinée parce que c'est tellement foisonnant, c'est fait au bic, il y a aussi de la couleur. Mais c'est vraiment comme des esquisses. Enfin, c'est pas des esquisses parce qu'ils sont très travaillés, la plupart des dessins, mais c'est une esthétique au bic, au crayon bic bleu. Avec cette portrait de femme bleue qu'il y a en couverture et qui apparaît tout le long du roman graphique. Et c'est l'histoire d'une petite fille qui est fascinée par les monstres et du coup qui est représentée par un petit monstre. On voit pas sa tête de petite fille en vrai dans le roman, dans la BD. Et en fait, il se passe tellement de choses à chaque planche et ce livre était énorme.
C'est énorme.
Je salue, je vois le travail, enfin, je vois même pas le travail, j'arrive pas à me rendre compte, mais je me dis, c'est tellement de travail et c'est assez virtuose, donc je suis assez soufflée par cette autrice qui a fait des trucs incroyables. Et pour les fans récents ou moins récents, apparemment le tome 2 va bientôt sortir, si je t'en crois l'oreillette. Donc ouais,
c'est sympa, ça c'est des bonnes nouvelles. Et je me demandais qu'est-ce que tu lisais en ce moment, quelles étaient les lectures qui t'avaient marqué ces derniers temps, tout ça.
Ouais, bah en ce moment je suis en train de lire plusieurs livres parce que c'est pas les mêmes univers et qu'il y a aussi les deadlines de bibliothèque qui rentrent en jeu.
On aime les enfin moins, on aime plus les médiathèques que les deadlines de bibliothèque.
Mais on adore qu'ils soient plutôt flexibles avec nos...
Oh, c'est le bonheur de la flexibilité des dates limites.
Donc tu sais, genre, je suis en retard, mais ça va, je suis pas en faute.
Je ne risque pas la prison pour ça, ça va.
Ou pire, t'empêcher de prendre
des livres. Et je te jure.
Non, ça, on n'est pas prêt. Alors, en ce moment, je suis en train de lire... Alors, que je vous ai cité c'est un essai poétique, je dirais, c'est un récit. Cartographie de l'amour décolonial de Liane Betasomake-Simpson, qui est donc une autrice autochtone canadienne et qui a fait ce récit qui est magnifique. J'en ai lu juste une partie pour l'instant et c'est vraiment des fragments biographiques, si j'ai bien compris, et qui parle de son rapport.
J'ai beaucoup aimé. Alors, on va quand même faire juste remarquer ce lapsus magnifique. On passera, mais vraiment, je dirais.
Parce que c'est assez sombre, j'imagine, son rapport à l'amour, aux relations amoureuses et son rapport de femme autochtone dans un pays à domination blanche et un peu effacé. Et son rapport à la société en général, et aussi aux réserves, tu parlais des réserves pour l'autre ouvrage. Et du coup, bah, c'est traduit par aussi une autrice autochtone, parce que du coup, ça devait être écrit dans la langue du coup de la communauté Mishisagignishnabaig. Okay. c'est très beau, c'est de la poésie, et du coup, bah, la traduction, c'est du français québécois, donc c'est aussi très intéressant. Et il y a des dialogues, et c'est vraiment de la poésie, c'est vraiment un récit. Je pense j'ai l'impression qu'il va être utilisé comme récit d'analyse, comme récit d'une génération et de ce que sont les relations, ce que sont le rapport à la transmission aussi. Je sais pas comment le résumer.
Mais ça a l'air génial.
Ouais. C'est beau. Ouais, pardon.
Non, j'ai dit, je fais une parenthèse parce que Sarah a vécu au Canada, en Nouvelle-Zélande également, un petit peu.
Un petit peu, effectivement. Oui, ouais. J'ai fait la parenthèse. Des séjours mais c'était passionnant au Québec parce que j'étais en licence de lettres au Québec pour un an en échange, et il y avait notamment un cours qui était littérature autochtone. Oh, et du coup, c'était passionnant. Bien. Et j'ai appris toutes ces choses qui sont très peu connues, en fait, sur le Québec et sur la diversité des communautés et des différentes nations, en fait, canadiennes et américaines au sens large. Le rapport à la colonisation pendant les siècles derniers et tout. Et ouais, c'est assez fascinant. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir plus... c'est plus facile quand on a été introduit de l'extérieur et par... on voit l'autorité littéraire, hein, l'autorité culturelle, ce que ça fait quand t'es prof de fac, tu dis allez lisez ça, tu fais oh j'avoue, et
ah,
tu
c'est
lis,
vrai,
tu fais bah oui, alors que puis en France on est loin de tout ça, donc je pense que c'est ça nous paraît très très lointain, mais c'est vraiment très intéressant. Et là on salue encore les bibliothèques parce que c'est une bibliothèque juste à côté de mon travail qui proposait du coup un panel de qui avait une expo et un panel qui montrait un panel de livres à emprunter autour de du coup des Premières Nations canadiennes, et là du coup bah ça fait partie de cette table là donc merci les bibliothèques de nous de nous permettre d'avoir accès à ça, c'est vraiment chouette.
Amour sur vous,
amour
sur
toujours,
vous. Et donc
toujours.
Tu disais quoi d'autre, tu lis quoi d'autre en parallèle?
Alors je viens de finir L'été où tout a fondu de
Ah
Tiffany McDaniel.
Et alors
aïe, 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 aïe. Bah c'est un peu traumatisant quand même. Tu l'as lu, toi?
Non, j'ai jamais lu Tiffany McDaniel. Et bon, tu connais ma famille, parce qu'on se connaît depuis un certain temps. J'ai une de mes sœurs qui est en train de le lire, qui est en train de lire Betty.
Ben, j'ai lu Betty avant, je l'avais trouvé. Mais c'est grâce au podcast, en fait, c'est à vous, parce que vous en avez parlé avec Laura. Et du coup, je l'ai pris dans des bouquins d'occasion. J'avais acheté Betty. Et je l'ai dévoré. Et là, j'ai lu. Ouais, l'été où tout a fondu. C'est dur. Hein. Par contre, je préviens,
ouais.
C'est dur. Y a tous les thèmes un peu traumatisants sont dedans. Donc. Il faut le savoir, et la fin est particulièrement violente. Donc, si vous voulez vous renseigner sur les trigger warnings à l'avance, vous pouvez. Alors, il est long, un peu long. Il est un peu trop long à certains endroits. Des fois, il y a des longueurs. J'ai l'impression que c'est un peu, elle pêche là-dedans un peu, Tiffany McDaniel. Mais par contre, aïe aïe aïe, c'est le pitch est ouf. C'est le père du narrateur qui est un enfant de 13 ans. Son père, qui est un procureur de justice, invite le diable dans le journal, ce qu'il a envie de voir par lui-même. C'est quelqu'un d'assez cartésien, et il dit bah, si le diable existe, j'aimerais bien le rencontrer. Et le lendemain, le petit garçon, son fils, rencontre un petit garçon aussi de son âge qui est noir et qui dit c'est moi le diable, j'arrive. Et il est en haillons et il dit c'est moi.
Oh là
Et
là.
Il va rentrer dans la famille, et il va se passer plein plein de trucs. Et ouf, c'est pas évident ce qui se passe.
Et pourquoi ça me fait penser, alors j'ai l'impression que ça va être encore un bingo, mais ce truc d'enfant qui apparaît dans une famille, c'est très Léo 2 Hurlevent.
Oui, c'est pas faux. Bah, c'est pas faux. Et il me semble que au dos du, alors je l'ai lu en français parce que je l'ai pris à la bibliothèque aussi. Wink wink. Il oui. Y a un critique qui disait c'est le premier roman gothique du 21e siècle. Donc
génial.
Je pense que,
oh là là.
Je pense que tu peux caser les audios le.
Je l'ai casé. Ça faisait longtemps que je l'avais pas mis dans le podcast. Ok, trop bien. Trop bien, trop bien.
Voilà, j'ai lu aussi, j'ai fini il n'y a pas longtemps After, de Oriane Velten, je ne sais pas. C'est un premier roman de SF,
okay.
D'une autrice apparemment de l'Est de la France. Et ça se passe, le pitch, c'est une société égalitaire dans laquelle les gens travaillent en la main dans la main, un peu utopie communiste. Et ils sont à l'ombre d'un très grand baobab où il y a des sages, tout ça, tout ça. Et il y a eu deux personnes qui sont élues dans cette société pour faire des travaux, pour faire une espèce d'exploration hors de la communauté, pour voir un peu qu'est-ce qui reste d'après le cataclysme, parce qu'on comprend qu'il y a eu un cataclysme. Donc c'est un peu un pitch courant dans la SF et dans la dystopie, avec ce truc de genre ah tout va bien et ah tiens du nouveau surgit, qu'est-ce que ça va créer dans la société. Et en fait tu te rends compte que ils sont en région parisienne, donc t'es là, il y a un baobab en région parisienne et il n'y a rien d'autre que des dunes et autour, d'accord, très bien. Et en fait il se passe plein, en fait il y a plein de choses, pour moi j'ai trouvé qu'il y avait énormément de plot twists, il y avait énormément de choses qui m'ont surprise. Et j'étais je l'ai pas vu venir. J'ai ah bon, parce que en fait depuis le début c'est j'avais pas compris, d'accord, très bien. Et du coup j'étais très prise par ce livre. On est plusieurs à l'avoir lu parce qu'au taf on a un peu un club de lecture et je bisous les collègues qui lisent beaucoup. Et du coup je sais que tout le monde a pas aimé, il y en a qui l'ont trouvé un peu chiant et convenu, et moi j'étais hyper surprise par des éléments de la narration. Et moi je suis très cliente après de la dystopie, et c'est pas une dystopie dégueulasse, parce que on les connaît les dystopies dégueulasses, forcément l'homme est un loup pour l'homme, on connaît la chanson, mais c'est plus nuancé que ça dans celle-là, et du coup j'aimais bien. Ça part, on comprend que ça va pas forcément rester le meilleur des mondes, mais c'est encore une autre façon d'aborder le collectif et la survie et choses comme ça. Donc je l'ai trouvé assez étonnant, ce roman.
Oh, tu le
Voilà.
pitches. Tu lis beaucoup de SF, toi, ou pas, de base?
De base, j'adore ça, mais j'en ai pas lu tant que ça. Et je pense que c'est un truc aussi de culturel. J'ai l'impression que la SF, c'est un genre qui est un peu considéré comme un sous-genre. C'est en train de changer, je sens. Mais je vois que malgré mon intérêt pour la SF, j'en ai pas lu tant que ça. Mais là, je suis en train de revenir dessus. Et
Ok.
ouais, donc j'ai beaucoup aimé les livres de Becky Chambers, par exemple. C'est un peu le livre que je voulais te conseiller.
Ah, mais j'ai même pas besoin de faire les transitions, c'est
Mais j'ai pas
incroyable.
besoin, pas besoin.
Les
Parce qu'en
abus,
fait, tu m'as posé la question en amont et tu m'as dit si tu devais choisir un livre pour Flavie et peut-être pour Laura, qu'est-ce que je vous conseillerais à chacune? Et du coup, je me suis dit. Et pour toi, j'ai vraiment hésité parce que je me suis dit, oh, je sais pas un auteur islandais, je vais faire
on va sortir de sa zone de confort,
Non,
bordel,
puis
enfin.
je pense que tu en connais plus que moi. Bon, j'ai
Oh.
rien à t'apprendre dans le
En
domaine.
fait, c'est terrible parce que j'en discutais avec quelqu'un, avec une abonnée aujourd'hui, et je disais, mais en fait, je crois que j'ai vraiment un appétit pour les auteurs scandinaves, mais j'en connais quelques-uns, mais je suis pas, enfin, j'en ai pas lu des centaines et des centaines, mais je sais pas, il y a un truc,
Bon,
c'est
t'en
ma.
gardes un peu sous le
Je
coude.
le regarde sous le coude, j'espère vieillir un petit peu, j'espère avoir le
Allez,
temps de lire un petit peu,
il faut
voyez-vous.
se garder les objectifs.
Et donc, pardon, je t'ai coupé.
Non, non, du coup, je me suis dit, ah, j'avais plusieurs idées pour toi, mais je me suis dit, L'espace d'un an de Becky Chambers, c'est le premier tome d'un cycle qu'elle a écrit, mais en fait, on peut lire les livres de ce cycle-là, ça s'appelle Le cycle des voyageurs. Tous les livres peuvent se lire indépendamment, c'est pas une suite forcément. Il y a des choses, plus t'en as lu, plus t'as d'éléments et c'est chouette. Mais voilà, moi je l'avais lu en anglais parce que mon coloc fan de SF a une grosse bibliothèque très bien achalandée et il y avait dedans, donc c'est l'espace d'un an en français et sinon c'est The Long Way to a Small Angry Planet.
Ok.
Et c'est un peu. Alors. Dans le pitch, hein, je dis pas du tout, parce que je peux pas faire aussi bien, mais c'est un peu vaisseau mère dans l'espace. pour pas dire, vraiment, c'est pas pour me la péter, c'est juste que j'ai lu le résumé du coup tout à l'heure de l'espace d'un an, et c'est vraiment genre machin qui rencontre machin, machin qui est comme ça, ils sont obligés de cohabiter dans le même vaisseau en fait là, parce qu'en fait ils font un voyage d'un an,
Ah,
ils peuvent pas faire autre chose, ils peuvent pas débarquer, et du coup ils cohabitent tous ensemble, et puis. Il y a plein de types de relations qui s'épanouissent, il y a plein de dramas, il y a plein d'interventions extérieures. Enfin, c'est plein de rebondissements. Et les personnages sont tellement intéressants. J'ai pleuré physiquement à la fin de ce livre parce qu'il y a une scène de cœur brisé qui est absolument
oh,
incroyable.
trop bien.
Et voilà. Et je me suis dit, je crois que des fois tu disais que tu avais envie de lire d'un peu plus de SF, mais que c'était pas très familière. Et là, comme c'est un côté un peu, bah c'est choral en fait. C'est un livre choral dans un vaisseau spatial. Tout ce que j'ai lu d'elle, je suis là, c'est super, je t'aime.
Oh, c'est trop bien. Mais c'est complètement résumé, c'est que j'en lis très 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 peu et je n'ai pas de désir particulier d'en lire, mais je sais que c'est comme tout. Je pense que tu as des univers à découvrir et des formules de tête à découvrir et j'ai trop. Ça me touche que tu m'aies fait de la SF. Oh là là, j'aime
Allez.
bien. Et si tu as l'idée pour Laura, est-ce que tu avais quelque chose
Oui,
hors
j'ai
note?
pensé à quelque chose de très lauraesque, qui est
Incroyable.
alors un roman de cannibalisme.
Allez, bisous la famille.
Et pas n'importe quel livre de cannibalisme, ce n'est pas quelqu'un d'isolé, si tu veux, qui décide de s'y mettre. C'est plutôt. Alors, c'est un livre qui s'appelle Cadavre exquis, de Agustina Basterica. C'est possible qu'elle le connaisse parce qu'elle disait
Ouais.
qu'elle cherchait les autrices argentines, par exemple.
Ouais, il me semble qu'elle l'a lu, mais c'est spot on, hein. Genre
Ouais, non,
vraiment,
mais.
t'es genre bravo, hein. C'est
Parce que je l'ai lu et j'étais là, aïe, 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 je n'étais pas prête. Je me suis dit, je vais sortir de ma zone de confort. Eh ben, c'était pas loupé. J'ai sorti de ma zone de confort.
non.
Donc, ouais, c'est le pitch, c'est un monsieur qui travaille dans un abattoir. Et c'est un abattoir à une espèce de race humaine qui a été développée pour pallier le manque de viande dû à... parce qu'il y a eu un virus et apparemment on peut plus manger d'animaux. Et du coup, bah, les humains, au lieu de devenir vegan comme tout un chacun, finalement, ils décident d'élever une race d'humains un peu inférieure pour les manger. Et tu vas absolument... oui, le mec travaille dans un abattoir, mais aussi il est chargé d'inspecter les abattoirs. Donc si tu veux, tu as un peu le de A à Z, qu'est-ce qu'on peut faire avec une carcasse. C'est
Oh
dégueulasse. Honnêtement,
là
c'est
là.
horrible. Et le plot twist est tellement inattendu. La toute dernière page est tellement genre. Déjà, t'étais pas bien et on t'achève vraiment là. Si vous êtes bien accroché et que vous voulez un bon plot twist, vous pouvez y aller.
Je crois que moi je suis pas prête pour ce genre de
Suis
choses.
prête.
Je suis très au. J'aime le truc horrifique, mais alors là vraiment je crois que c'est trop. Ça
Mais
va
c'est
trop loin pour
gore.
moi.
C'est gore en fait. C'est
Ok.
hyper gore. Et en même temps, ça donne un peu de qu'est-ce qu'on fait dans des un aperçu de qu'est-ce qu'on fait dans des abattoirs. Donc tu voulais pas lire sur ça, mais en fait tu lis sur ça
Bah
clairement.
oui, mais c'est
Donc
hyper intéressant.
ouais.
Et toujours très actuel, finalement. Mais trop cool. C'est merci. Laura sera ravie parce que en plus, je crois qu'elle a beaucoup, beaucoup aimé de souvenirs. Donc, t'es pile dedans. Pile dedans. Et on va devoir bientôt s'arrêter parce que
Non.
ça passe beaucoup trop vite en
Aïe,
plus.
aïe, aïe,
Et j'avais une dernière petite question pour toi. C'est pour toi, quel est un des livres les plus... Oh, waouh, pas du tout savoir formuler cette question
aïe.
correctement. Quel est un des livres les plus incontournables pour toi? Genre, le livre qu'il faut avoir lu, c'est quoi? J'aime pas cette phrase comme ça, mais voilà, c'est ce que je veux dire. Tu vois, un livre majeur pour toi.
Ouais, et ben oui, c'est intéressant d'en parler comme ça, un peu. Qu'est-ce qui a eu un livre fondateur, en fait? Je me dis que moi, je me dis, ah oui, faut pas foutre la pression à tout le monde, mais je dis, ah moi, un livre qui a été fondateur, ben, c'est un roman jeunesse qui s'appelle Le Passeur. Je sais pas si tu
Ah,
connais.
attends, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, oui.
Louise Lowry, c'est une États-Unienne. Et c'est un roman, en fait c'est une dystopie pour pas changer, une équipe qui gagne en ce qui me concerne, mais c'est dystopique, il se passe des choses assez dures, mais en même temps c'est très doux comme livre, parce que c'est le point de vue d'un enfant. Et c'est le point de vue d'un enfant de 11 ans, parce qu'il y a tout un truc autour de... Il y a une cérémonie pour les enfants de 11 ans où on leur attribue leurs tâches dans leur société.
Je crois que Laura l'a lu, il me
Ouais.
semble, mais ça me dit quelque chose.
Je l'ai lu enfant, je l'avais eu par l'école des loisirs, dites donc. Ça passait par l'école. Je ne
Eh
sais pas
ben.
comment j'étais arrivée là, mais je pense que mes parents m'avaient inscrite. Et du coup, j'étais inscrite pour ça. Et tous les mois, je recevais un livre jeunesse. Et ça faisait partie des livres jeunesse. Et donc, Le Passeur, The Giver, en anglais, que j'ai lu après, là, adulte, en anglais, et qui très bien. Et du coup, j'ai lu plein de choses de cette autrice qui est restée, qui fait surtout du roman jeunesse. Et qui ça se lit très bien. Donc j'ai lu des romans d'elle. C'est vraiment, ouais, c'est des romans jeunesse, mais c'est très agréable à lire aussi adulte si on a envie de lire bien sûr quelque chose comme ça. Mais c'est de très belles histoires et elle me fait bien chaud au cœur. Et genre l'histoire elle est dure, mais en même temps elle est très très belle. Et oh, c'est fou ce qui se passe avec cet enfant et qui est désigné comme étant le prochain récipiendaire de la mémoire. Et il a
Oh, c'est beau.
l'ancien récipiendaire de la mémoire qui dit, bah maintenant je suis le passeur, je vais te passer les souvenirs. Et en fait, il lui passe des souvenirs en lui touchant la peau.
OK.
Et en fait, il lui transmet des choses et tu comprends qu'il a jamais, il sait pas ce que c'est des parents. Enfin, il a des parents, mais c'est pas ses parents biologiques. Il sait pas ce que c'est la musique. Il sait pas ce que c'est. Des phénomènes météo, il sait pas ce que c'est. Il y a plein de sensations qui nous sont familières que lui connaît pas, et tu comprends qu'en fait il a une vie qui est très amputée de tout ce qui fait notre vie d'être humain dans notre culture. Mais en même temps, il découvre toutes les horreurs de la guerre qui lui sont transmises. Et en fait, il les vit comme si c'était son souvenir à lui. Donc en fait, il les revit. Donc il vit des choses assez traumatiques et tout. En fait, plus il en apprend, bah, plus son regard sur l'endroit où il vit change et ça va lui faire prendre des décisions. Et c'est très beau, c'est très bien amené. C'est le point de vue d'un enfant. Je me souviens quand j'étais enfant que j'avais le même âge, je l'ai lu et je me sentais très concernée. Et en adulte, je l'ai pas trouvé neuneu ni rien. Il est très juste et il est trop beau ce livre. Et ouais, pour
Oh.
moi, il est incontournable de mon histoire de lectrice.
Oh, c'est trop bien.
J'avais trop envie de parler de ce livre.
Ben, c'est, tu donnes envie. Enfin, tu sais, déjà, je me rappelle quand Laurent en avait parlé, j'ai dit, mais je trouve le concept génial, donc ça donne encore plus envie de le lire. Donc,
Ben, je te le conseille. Je pense qu'il se lit vite en plus.
Oh,
Il
merde.
n'est pas très long et oh là là,
Je
j'en
pense
ai.
pas qu'il se trouve aussi facilement.
Ouais, je pense aussi. Et il avait pour ça, pour dire qu'il est bien, il avait été interdit dans certaines écoles aux États-Unis. Comme tous les
C'est un
bons
gage
ouvrages.
de qualité,
Gage de
finalement.
qualité.
Comme certains livres en France, d'ailleurs,
Ouais.
chez les ados, tu vois, le truc.
Oui, il avait été censuré pour des motifs, je crois, religieux, catholiques.
Fun.
Et ouais, j'étais là, vraiment, je vois pas le rapport avec la sonnette, mais c'est pas
Il
grave.
y a des fois, il y a des gens qui voient des rapports qui n'existent pas.
Mais en tout cas, voilà, tous les livres censurés pour les jeunesses, quand ils ne sont pas pornographiques, c'est souvent bon signe qu'il l'ait été, parce qu'en général, il lit des choses profondes.
Ça donne trop
Voilà.
envie, ça donne trop envie. Et puis, on va finir là-dessus en
Oui,
plus.
oui.
Donc, ça
Voilà.
passe à une vitesse. C'est un
Allô?
plaisir, un bonheur
C'est
de
super.
parler, de t'écouter parler de livres, d'écriture et de tout ça. C'est un gros, gros bonheur.
Oh, merci
Et
pour ton invitation et pour
ça
tes
fait
questions.
trop d'amour, trop de plaisir.
Bonjour la commu, j'espère que ça vous a plu.
Écoute, et après on fait une petite musique comme les humoristes. C'est tout pour moi, merci Cam, à
Allez,
papa, à la papa.
bisous, c'était super.
On va faire ça après, juste pour le kiff. Et non, non, vraiment, c'est un gros plaisir de partager cet épisode avec toi. Et puis j'enjoins toute la commu, j'enjoins toute la commu à lire le travail de Sarah, donc qui est publié chez Gorge Bleue. Donc Flowfly a parlé.
Oui.
Floriste, on lui fait des bisous.
Merci Floris, parce qu'il a été très très dithyrambique. Merci Floris encore.
Et en plus
Bisous.
que ta photo est juste collée à côté de celle d'Annie Ernaux, ce que je trouve très beau et très prémonitoire. Oh là là, pas je te conseille, c'est pas du tout le terme, mais j'espère que ce sera la même carrière, disons-le.
Je me permets une mini digression de Flowfly a fait une capture d'écran de sa vidéo au-dessus, donc il y a sa tête, la mienne, celle de Dany Arnaud, et en dessous son podcast qui s'appelle Demi-molle. C'était une capture d'écran incroyable et je les remercie pour ce moment
Tu
parce
l'as
que vraiment il y
gardé.
avait tout dans cette photo.
Y avait tout ce qui est pas net. Et finir
Allez,
sur une.
bisous.
C'est beau finir sur demi-molle. Demi-molle, on
Ouais.
dirait le nom d'une note de musique. Oh, j'ai été
Oui.
accordé en demi-molle. Écoute.
Tu sens que c'est pas un bel accord.
C'est pas. Ouh, ça fait mal. C'est
Ou
pas jojo, comme on dirait.
c'est
Comme diraient les
mineur,
vieilles personnes, c'est pas jojo.
Casse pas quatre pattes, un canard.
Ouais,
Non, non,
voilà,
non.
vous voyez le type de dialogue que nous avons au quotidien,
Et puis
presque.
on se retient un petit peu quand même.
C'est vrai qu'on était calme ce soir.
Bon,
On était
on
calme
était
ce soir.
sage, on était très pro.
Mais en tout cas, à très bientôt, je l'espère,
Merci.
Sarah.
Merci Flavie, merci Laura, bravo pour votre travail, c'est super.
Oh, merci beaucoup. Et puis nous nous retrouvons dans 2 semaines pour un autre épisode. D'ici là, faites des bisous à vos médiathèques de ville et de campagne. Faites des bisous à vos livres que vous lisez ou que vous ne lisez pas. Regardez-les, faites ce que vous voulez avec. Mais en tout cas, bonne lecture et à dans 2 semaines. Bisous.
Au revoir.